parole, Seigneur notre Dieu, nous voulons que tu nous aides à recevoir notre part d'aujourd'hui et que tu nous aides à vivre de ta parole. Comme tu dis que l'homme ne vivra pas que de pain, ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, que ta parole devienne notre vie, notre nourriture de vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous avions commencé la fois passée la méditation, une petite méditation sur le prophète Abdias, un tout petit prophète parmi les 12 petits prophètes. Et mon but, je vous ai dit, c'est vraiment à travers cette prédication simplement de vous encourager à avoir cette curiosité de découvrir des livres dans la Bible. J'aimerais beaucoup, pendant ces vacances, vous encourager à lire un livre, un ou plusieurs livres de la Bible, mais pas simplement des chapitres, mais prendre vraiment un livre d'un bout à l'autre. Et j'ai dit aussi que, de toute façon, il y avait une gamme de choix énorme dans la Bible, puisque vous avez des livres qui n'ont que 2-3 pages, vous avez des livres qui ont 50 chapitres. Hein? Donc, vous avez le choix au milieu de tout ce que vous avez choisi, mais j'aimerais beaucoup que vous puissiez avoir un livre de chevet de la Bible pendant ces vacances. Que vous puissiez en lire un ou deux, ou peu importe. Il y a déjà quelqu'un qui m'a bien encouragé, qui m'a dit qu'il va lire le livre d'Esther. Waouh ! Non, c'est pas toi, Esther. C'est quelqu'un d'autre qui a dit qu'il va lire le livre d'Esther. Voilà. Ça m'a encouragé quand j'ai entendu cette personne me le dire comme ça. Donc voilà, nous avons à découvrir la parole de Dieu. C'est pas simplement lire la Bible, c'est pas seulement une question pour nous d'une obligation sociale, coutumière, culturelle. Lire la Bible, c'est salutaire pour nous parce que c'est là que nous recevons ce que Dieu a à nous dire. C'est là que nous recevons les instructions de Dieu. Et donc, véritablement, puissions-nous vraiment aimer la Bible, la lire régulièrement. J'expliquais à mes enfants qu'il y a 3 dimensions. Il y a la lecture de la Bible, il y a la méditation de la Bible et il y a l'étude de la Bible. Et il faut arriver à ce qu'on puisse atteindre ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on puisse arriver à la fois à lire, mais qu'on arrive aussi à méditer et qu'on arrive aussi à étudier. Évidemment, le but dans les trois démarches est toujours le même, c'est s'approprier la parole pour la mettre en pratique, pour la vivre comme elle est écrite, pas comme nous le pensons. Et donc, c'est une démarche que je vous encourage parce que la Bible est vraiment capitale pour nous. Elle est importante dans nos vies de chrétiens. Elle est vraiment le moyen par lequel nous pouvons grandir spirituellement, connaître Dieu, être proche de Dieu et le servir d'une manière adéquate. Le pire d'une expérience chrétienne, ce serait quelqu'un qui viendrait et qui dirait, qui à la fin de sa vie arriverait devant Dieu. Dieu dit, hey, hors de moi, je ne te connais pas. Parce que la personne n'a pas fait cette expérience personnelle avec Dieu. La Bible permet que nous puissions le faire, permet que nous puissions nous approcher de lui et que nous puissions vivre une intimité profonde avec lui. La prophétie d'Abdias, nous avions divisé ce court texte qui n'a que 3 chapitres, qui n'a qu'un seul chapitre, 21 versets, c'est tout. Nous l'avons divisé en 3 parties. La première partie, c'était la malédiction d'Édom. La deuxième partie que nous verrons aujourd'hui, c'est les causes de cette malédiction. Et prochainement, dimanche prochain, Dieu voulant, nous allons voir alors la dimension qui est la perspective d'avenir, les perspectives d'avenir qui se présentent dans ce texte, dans cette prophétie. Nous n'allons pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit la fois passée. Peut-être qu'on va reprendre l'une ou l'autre chose en chemin, mais nous allons directement poursuivre avec notre texte. Nous avions planté le décor. Maintenant, nous savons qui est Édom. Nous savons plus ou moins leur localisation géographique. Nous connaissons plus ou moins leur histoire. Nous connaissons quel est le problème qui se pose à eux par rapport à Dieu. Et nous avons vu aussi en quoi consistait la malédiction. Et nous avons vu que Dieu a réalisé et accompli cette malédiction qu'il leur a promis. La malédiction, c'était que Dieu allait envoyer un peuple, allait envoyer des nations qui allaient s'allier pour attaquer et détruire Édom. Édom, donc, le peuple issu de la descendance d'Ésaü. Alors, nous allons relire le texte dans son ensemble et nous arrêter sur la partie du milieu qui est donc le verset 10 à verset 14. On va quand même relire l'ensemble. C'est un court texte avec 21 versets, donc il y a moyen de le lire entièrement. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à la terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendageurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé tes pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages, de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes guerriers au Téman seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne repais pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de ta détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repais pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards, et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te fera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Ceux du midi posséderont la montagne d'Ésaü et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ils posséderont les territoires d'Éphraïm, celui de Samarie et Benjamin possédera Galat. Les captifs de cette armée, des enfants d'Israël, posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, et les captifs de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Nous allons nous focaliser plus sur la deuxième partie, du verset 10 au verset 14. peux peut-être juste redescendre. Voilà, le verset 14 déjà, c'est très bien. Le 10, pardon. Voilà, très bien. Quelles sont les causes de la malédiction des hommes? Verset 10. À cause de ta violence contre ton frère Jacob. La raison pour laquelle Dieu va frapper Édom, la raison pour laquelle Dieu va maudire Édom, c'est à cause de sa violence contre son frère Jacob. J'espère que tout le monde a bien compris que Édom, ce sont les descendants d'Ésaü, ok? Donc les Israélites étant les descendants de Jacob, donc c'est une guerre fratricide qui se prolonge dans le futur. La violence, c'est l'acte par lequel on agresse l'autre, on porte atteinte à son intégrité. Dieu reproche à Édom d'avoir été violent, d'avoir été agressif à l'égard de Jacob, qui est son frère. Dieu condamne en fait la trahison, la méchanceté d'Édom. Et en quoi consiste cette violence? Vous avez vu, à partir du verset 11, on le voit, n'est-ce pas? Édom a participé à la guerre contre Israël en s'alliant contre les ennemis, les troupes ennemies à Israël. Il a participé au malheur du peuple et qui se faisait ainsi déposséder, qui se faisait ainsi emmener en captivité. Il a participé à cela. Il a soutenu les autres et même il s'en est réjoui. Verset 12, il s'en est réjoui, il était content du malheur du peuple d'Israël. Non seulement il était content, plus loin encore, au verset 13, il va jusqu'à aller les agresser, leur porter la main, attendre les fouillards, ceux qui fouillent la destruction, les massacres, il les attendait pour les exterminer. Édom voulait aussi s'approprier les biens, les richesses du peuple d'Israël. 13b, la deuxième partie du verset 13, « Et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. » Édom, et ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas la première fois parce que le peuple d'Édom a toujours fait la guerre aux descendants de Jacob, au peuple d'Israël. Et donc, ce n'était pas la première fois. Mais cette fois, Dieu décide que c'est terminé. Ça en est trop. En fait, souvenez-vous, comme je le disais, comme on avait dit la fois passée, la haine, le désir de vengeance, le rêve de récupérer l'héritage d'Isaac, qui était dans le cœur d'Ésaü, a été transmise à ses descendants. Et nous avions même ouvert une parenthèse pour dire que certaines histoires de famille, certains conflits de famille ont intérêt à être réglés rapidement, en tout cas réglés progressivement, parce que de génération en génération, les affaires deviennent inextricables. J'aime bien les dessins animés, j'aime bien lire Luc Ulic. Peut-être d'autres aiment bien lire ça aussi. Et je me souviens toujours de cette guerre qu'il y avait entre les deux familles irlandaises, les O'Hara et les O'Timmins, qui se haïssaient au point qu'un jour, un O'Hara est tombé amoureux d'un O'Timmins, et ça a été la guerre, ils se sont tirés dessus, ils se sont tapés dessus, jusqu'à ce que le couple leur a dit, mais écoutez, expliquez-nous, quel est votre conflit? Et ils ne savaient plus pourquoi ils étaient en guerre contre les uns contre les autres. Ça faisait des générations. Un O'Hara vivant, qu'est-ce qu'il disait? Un O'Hara mort, il y avait une expression pour dire qu'on ne devait pas laisser un O'Hara vivant, quoi. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Ils avaient l'habitude de faire la guerre depuis des années, des générations. Ils se haïssaient, ils ne savaient même plus pourquoi. Le peuple d'Édom avait porté la haine, le désir de vengeance. Le rêve de récupérer l'héritage d'Isaac que Jacob avait usurpé. Il rêvait de cela. Il voulait donc faire du mal au peuple d'Israël pour récupérer leur butin chaque fois. Pourtant, ce qui est arrivé avec Ésaü était de la responsabilité d'Ésaü. Était, sur le plan matériel, sur le plan de l'action, était de la responsabilité d'Ésaü. Regardons Hébreux au chapitre 16. On va regarder Hébreux chapitre 12. Toi, tu suis mon texte. Hein, même. Donc, Hébreux chapitre 12, du verset 16 au verset 17. Donc, c'est l'exhortation de l'auteur aux Hébreux qui demande à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane. Et il prend exemple sur Ésaü. Comme Ésaü qui, pour un mais, vendit son droit d'aînesse. Nous l'avons vu, n'est-ce pas, la fois passée. On a vu ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est dans le livre de Genèse qu'on a lu ça, au chapitre 27. Je ne sais plus quel verset encore. Et ici, nous voyons l'auteur aux Hébreux qui reprend cela en disant, en rappelant que Ésaü a vilipendé, a rejeté, a négligé le don qu'il avait, l'héritage qu'il avait, à cause d'un mais. Il a vendu son droit d'aînesse. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer les sentiments. Ce qui est arrivé, Ésaü en porte la responsabilité. Ce texte montre que Ésaü a été coupable de négligence et de mépris à l'égard de la grâce de Dieu. Il a bradé sa position d'aîné, sa position que Dieu lui a donnée. Il a bradé cela, et en le bradant, il s'est mis dans une situation difficile. Cette attitude, d'ailleurs, d'après le commentaire qui s'est fait ici, cette attitude témoigne de la part d'Ésaü un comportement charnel, où il montre que la bénédiction, ce qui vient, ce qui a été le plan de Dieu n'est pas important pour lui. Il n'a pas su donc trouver la bénédiction patriarcale. Or, c'était lui l'aîné. Bien sûr, bien entendu, Jacob a sa part de responsabilité. C'est quand même un supplanteur, c'est quand même un usurpateur, c'est un petit malin. Il a joué avec le fait que son frère n'était pas très prudent, n'était pas très sage. Il a joué sur ça pour gagner, pour obtenir quelque chose qu'il a trouvé, lui, de beaucoup plus valable, de beaucoup plus désirable que son frère. Jacob n'a pas été correct. Il a sa part de responsabilité, bien sûr, mais la part d'Ésaü est grave. Est grave parce que c'est une négligence. C'est une négligence de la grâce qu'il a reçue de la part de Dieu. Je ne vais pas commenter là-dessus parce que mon but n'est pas de rester sur le texte et d'épuiser tout ce qu'il y a dans le texte, mais mon but est justement de visiter ce texte, de faire une lecture rapide, etc. Parce que je veux quand même vous donner envie que vous aussi vous fassiez le même type d'exercice aussi avec vos lectures. Alors, une question peut se poser ici. Pourquoi Dieu maudit-il Édom, alors que le peuple d'Israël n'a pas toujours été fidèle? Plus encore, Dieu leur avait promis de leur envoyer une armée étrangère qui les pillerait, les emmènerait en captivité chaque fois qu'ils vont pécher contre lui. Alors, comment expliquer que Dieu leur en veuille à cause de la violence qu'ils ont portée sur Jacob? Comment expliquer cela? Autrement dit, pourquoi Dieu agit dans cette lutte fratricide en prenant position en faveur de Jacob? Dieu serait-il donc injuste? La question que je pose requiert deux réponses en deux temps, mais aujourd'hui, puisque c'est dans le texte comme ça, je me contenterai d'une des réponses et l'autre réponse, je le compléterai la prochaine fois. Ce que Dieu reproche à Édom, c'est d'avoir touché le peuple que Dieu a choisi. Dieu a choisi Israël pour être son peuple. Dans ce sens, toucher Israël, c'est toucher Dieu. C'est le pousser à réagir pour le défendre. C'est pour ça que j'avais pris, au début du culte, j'avais pris le psaume 94, Dieu des vengeances. Dieu, quand on touche à son peuple, on touche à lui. D'ailleurs, vous connaissez ce texte dans Ésaïe 43 qui dit, celui qui te touche, touche à la prunelle de mes yeux. Parce que Dieu est avec son peuple. Il le soutient. Bien sûr, la condition n'est pas toujours nécessairement que même si le peuple ne fait rien, si le peuple fait des bêtises, qu'il est en train d'agir d'une manière qui ne plaît pas à Dieu, c'est pas pour ça que Dieu va dire, ok, on ne le touche pas. Je viens de vous le dire. Dieu est juste. Quand son peuple pêche, eh bien, il leur envoie une punition. Il leur envoie un châtiment. Mais c'est parce que Dieu leur envoie un jugement, un châtiment, que ce peuple cesse d'être son peuple. Il continue à l'aimer. Vous connaissez l'expression, qui aime bien, châtie bien. Dieu va toujours châtier son peuple de manière à pouvoir l'emmener, de manière à le récupérer pour le reprendre, pour l'éduquer, pour l'emmener à mener une vie juste et sainte devant ses yeux. Ce que Dieu reproche à Édom, plus précisément, dans le fait de toucher son peuple, ce que Dieu reproche à Édom, c'est de chercher à acquérir par la violence ce qu'il avait formellement refusé de donner à Ésaü. Vous comprenez? La bénédiction, Ésaü l'a négligée. Jacob l'a pris. Dieu l'a donné à Jacob. Ce que Édom fait, c'est qu'il veut récupérer par la violence cet héritage que Jacob a reçu de la part d'Isaac. C'est ça que Dieu lui reproche. Dieu reproche à Édom d'agir de la sorte à l'égard de son peuple. Et effectivement, le peuple d'Édom, c'est un peuple orgueilleux. Nous l'avons vu la fois passée. Et il veut faire main basse sur le territoire et sur le bien du peuple d'Israël. Et venger ainsi leur père. D'ailleurs, vous avez entendu à plusieurs reprises, le texte le dit, qu'il veut chaque fois mettre la main sur les biens, sur le territoire, etc. Et ce choix, eh bien, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas aller jusque-là. Parce que Dieu a déjà fait un choix par la disqualification d'Ésaü. Vous savez, à la base, bien que Ésaü n'a pas obtenu sa part de bénédiction comme il le souhaitait, Ésaü a quand même été béni. Ésaü a quand même été béni par Dieu. Autrement, il a reçu sa part de bénédiction. Je voudrais quand même qu'on regarde ça dans le verset, dans Hébreux chapitre 11, là. 11, hein, c'est ça. Voilà. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Par la foi. Il a agi dans une démarche de foi. Nous avons vu la fois passée, admirablement, que toutes les prophéties d'Isaac sur son fils Ésaü se sont accomplies. Toutes les paroles qu'il a prononcées sur Isaac. Eh bien, ici, nous voyons que, effectivement, Jacob et Ésaü ont été bénis par leur papa. Ils ont tous reçu de la part de Dieu leur part de bénédiction. Mais la démarche d'Ésaü va être une démarche qui va violer son père. Il va violer la règle pour s'accaparer de ce qui n'est pas dans sa part à lui. Et voilà donc ce qui fait alors et qui ouvre alors la porte à la réaction de Dieu. Édom a outrepassé sa part de bénédiction. Et donc, en outrepassant sa part de bénédiction, en recherchant de prendre une bénédiction qui ne lui appartient pas, directement, il s'est mis en rébellion ouverte contre l'ordre de Dieu, et donc contre Dieu. Et c'est pour ça que Dieu va agir. Et ce matin, pour nous, qu'est-ce que ce texte peut nous exhorter ? À quoi ce texte peut nous faire penser et à quoi ce texte peut nous inviter. Première chose qui m'est venue, en tout cas à cœur, c'est que les voies de Dieu sont impénétrables. C'est par Jacob que la bénédiction va venir. Jacob, à la base, c'est un usurpateur. C'est quelqu'un qui va tricher, qui va voler un droit qui n'est pas à lui. Mais c'est par lui que Dieu va former le peuple d'Israël. Les voies de Dieu sont impénétrables. Il y a des chemins par lesquels nous passons, on ne comprend pas pourquoi on passe ces chemins-là. Il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie, on ne comprend pas pourquoi. Parfois, on peut se retrouver dans des situations où on se dit, mais c'est totalement incompréhensible, c'est insensé, comment je suis dans des situations pareilles? Les voies de Dieu sont impénétrables. Jacob, le supplanteur, deviendra Israël. Vous savez ce que ça veut dire, Israël? Quelqu'un sait? Levez juste la main, quelqu'un qui sait, il me dit, hein. Vas-y. Voilà, celui qui lutte avec Dieu. Vous imaginez, le supplanteur d'hier devient celui qui lutte avec Dieu. Ou contre Dieu. Mais ça a du sens. Okay? C'est celui qui était de l'autre côté et qui va devenir le père d'une nation. Qui va prolonger la promesse faite à Abraham. Les voies de Dieu sont impénétrables. Et donc, par conséquent, soyons sages pour ne pas, d'une part, nous faire justice nous-mêmes. D'une part, croire qu'avec nos propres moyens, nous pouvons faire des choses pour Dieu. Soyons sages pour cela. Soyons aussi sages pour savoir que, puisque Dieu est au contrôle de toutes les choses et que lui sait comment il mène les choses, nous avons à nous attendre à lui et à regarder comment lui mène les choses et à ne pas conclure sur les choses, mais regarder comment Dieu dirige. Moi, vous vous souvenez que je vous avais parlé la fois passée avec cette expérience de David, au milieu de cette adversité où il fuit son fils, Absalom, qui prend le pouvoir à Jérusalem, il ne regardait qu'une seule chose, il se posait la question, où est Dieu dans cette affaire? Comment vais-je réagir de manière qui puisse plaire à Dieu, qui puisse être conforme à la pensée de Dieu, à ce que Dieu veut que je fasse? C'est à ça que David s'est occupé à faire, à chercher. Donc, première chose, les voies de Dieu étant impénétrables, nous ne savons pas toujours dans le cours des choses si nous pouvons comprendre tout ce qui se passe. Mettons-nous, attendons-nous à Dieu. Et surtout, Edom, lui, il va faire justice à lui-même. Il va essayer de chercher à récupérer les biens, les richesses par sa propre force. Mais mal va lui en prendre. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose. Dieu va faire, à plusieurs reprises dans le texte, dans la portion du texte que nous avons pris, à plusieurs reprises, Dieu va faire le reproche à Edom en lui disant, « Tu te réjouis un peu trop du malheur de tes frères. » Il y a même l'expression « ne te repais pas ». Celui qui se repait, c'est « ça lui fait du bonheur, quoi. Le malheur, ça me fait du bien. Il est malheureux, mais ça me fait du bien. Ça me donne, je suis bien. Je me sens bien parce que l'autre, là, il est complètement malade, complètement foutu, avec des problèmes. Je suis content de son malheur. Tellement content que, je me sens bien. Ne te repais pas du malheur de tes frères, de ton frère. Et peut-être ce matin, comprendre simplement que le fait de se réjouir du malheur de nos frères est une source de blocage pour notre propre marche, parce que ça nous rend incapables d'être humbles, incapables de pouvoir nous inscrire dans la volonté de Dieu, incapables de faire la volonté de Dieu. Ça nous conduit sur un terrain où Dieu n'est plus avec nous. Au contraire même, Dieu pourrait être contre nous. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de textes dans la Bible déjà, dans le Nouveau Testament, qui nous exhortent à ne pas nous réjouir du malheur des autres. Nous, les chrétiens, vous savez, on ne se réjouit pas du malheur des autres. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? On ne se réjouit pas du malheur des autres, non, hein? Non. Sauf que, oui, de temps en temps, pas beaucoup, tout petit peu, au fond de notre cœur. Tu ne sais pas. J'ai appris que Cyril a échoué. Je me disais bien. Je me disais qu'il échouerait. Je lui ai dit d'étudier, il n'a jamais étudié. C'est bien fait pour lui. Bien fait pour lui. Ah, cette église-là. Ah, ils sont. Oh, ah, le pasteur est parti. Ah, il y a un adulte. Ah, il y a des adultères là-bas. Oui, je me disais bien, c'est pas une église normale. Non, non. Bien, monsieur et madame, hein, un chaud. Dis, cette église-là. Tu savais, hein, on savait, hein, on se disait bien, hein, avec tel là-dedans, ouah, ça n'ira jamais, hein. Ne pas se réjouir du malheur des autres, mais au contraire, être là, à l'attente, à l'écoute de Dieu. Troisième, dernière chose, et je pense que c'est ça qui a fait la malédiction pour Edom. Nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons. Être content de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Dieu fixe une part d'héritage à Edom et la part de Jacob. Même si Jacob l'a triché, même si Jacob l'a usurpé, c'est son affaire avec Dieu. Moi, je prends ma part. Jacob n'a pas, Ésaü n'a pas fait ça. Ésaü a voulu prendre la part qui, dans sa tête à lui, dans sa façon à lui de voir la logique des choses, lui revenait à lui. Derrière ce texte, il y a cette exhortation-là aussi de dire, soyons contents de ce que nous avons. Soyons contents de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Je suis petit en Jésus-Christ, merci Seigneur. Je suis grand en Jésus-Christ, merci Seigneur. Je suis gros en Jésus-Christ, merci Seigneur. Je suis tout mince, merci Seigneur. Enfin oui, je crois que ceux qui sont minces diront deux fois merci. Enfin bon, c'est une autre histoire. Je ne me vise pas, soit dit en passant. Voilà. Vous voyez, être content de soi, de ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est une manière de dire merci à Dieu. Quand je suis content de la situation, de ce que je suis moi, de ce que j'ai, alors c'est une manière à moi de dire merci à Dieu. De dire, je suis reconnaissant pour tout ce que tu me donnes. Ou tout ce que tu ne me donnes pas. C'est trois petites choses que je voulais mettre simplement devant nos yeux. Pour juste que ce texte ne soit pas un texte étranger à nous. Oh, ça s'est passé comme ça avec les gens des Dômes. Les gens des Dômes, c'était voyous. C'est pas possible, quoi. Et ils ont maltraité leurs frères. Mais c'est quoi cette affaire-là? Mais au moins, ça se dise, ben, oui, il y a peut-être quelque chose que peut se répercuter à nous encore aujourd'hui. Peut-être regarder un peu et faire attention. Les voies de Dieu sont impénétrables. Juger l'autre, juger un chrétien, juger une chrétienne dans sa situation malheureuse, dans sa situation difficile, c'est pas facile, c'est pas évident. C'est pas évident. Soyons prudents, soyons sages. Régler des comptes nous-mêmes, essayer d'obtenir des choses par la force, c'est pas sage. Soyons sages. Et puis deuxième chose, savoir que nous devons apprendre aussi à attendez, j'ai encore oublié moi avec ma mémoire. Voilà. Apprendre aussi à savoir que Dieu aussi nous fait comprendre que nous ne devons pas nous réjouir des malheurs des autres. Et puis la troisième chose, apprendre à être content de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons en Jésus. Être content. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir le challenge d'augmenter mon capital. Je ne suis pas en train de vous dire, soyez content de ce que vous êtes, et puis contentez-vous de ça. Si, selon Dieu, selon les voies de Dieu, tant que c'est correct par rapport à la marche chrétienne et par rapport à la volonté de Dieu, à sa parole, vous pouvez augmenter vos capacités. Je ne vais pas dire à Rebecca de dire, ok, tu es à l'université, première année, tu es très contente comme ça, laisse tomber, continue plus tes études. Je n'ai pas dit ça. Ou je ne dirai pas à l'autre qui est à deux doigts de se faire nommer directeur dans sa boîte, de dire ne te fais pas nommer directeur. Non, sois très content d'être ce que tu es. Non. Progresser, mais selon Dieu. Progresser avec Dieu, dans sa grâce. Voilà. C'est ce que je voulais partager ce matin, ensemble. Et que le Seigneur lui-même vous aide, dans vos textes à vous, personnels aussi, à cheminer comme ça, à réfléchir et à avancer avec ça. Et nous allons continuer et clôturer ce texte-ci donc pour la prochaine fois. Nous allons prier pour terminer le message. Seigneur, je vais te recommander ma vie à moi et la vie de chacun et chacune parmi nous ici. Te demander que ta parole fasse jour, devienne la lumière. C'est le psalmiste qui disait, par ta lumière, nous voyons la lumière. Aide-nous que par ta lumière, nous voyons un peu plus, un peu mieux. C'est que toi, tu veux pour nous, c'est que toi, tu es pour nous. Seigneur, tu dis que ta parole est une lampe à mes yeux, une lumière sur mon sentier. Accorde que par ta grâce, cela soit une réalité dans ta parole chaque jour. Et Seigneur, à travers l'exemple des Dom, ce peuple des descendants issus d'Ésaü, Seigneur, tu veux peut-être ce matin nous rappeler encore de faire attention à que c'est toi le maître, que c'est toi qui dirige, que c'est toi qui mène les choses, que c'est toi qui prends les vies des gens, qui dirige les chemins des gens. Toi, tu sais dans quelle direction. Aide-nous à être sages. Aide-nous à ne pas être vite à juger, vite à obtenir les choses par la force et la violence. Seigneur, tu nous rappelles peut-être à travers ce texte aussi que nous n'avons pas à nous réjouir du malheur des autres, et particulièrement de nos frères chrétiens, parce que toi, tu es au contrôle de leur vie aussi, d'une manière ou d'une autre. Tu nous apprends aussi, Seigneur, que nous avons à être contents de ce que nous sommes en toi, de ce que nous avons en toi. Aide-nous à vivre de ce bonheur-là aussi. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Continue à nous sanctifier par ta parole. Au nom de Jésus. Amen.